C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, je suis avec Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut. Écoute, moi, ça va super bien ce matin. Je pense que toi aussi, hein, t'as l'air avec ta petite voix fluette là, t'as l'air
oui,
d'être...
Je travaille une vraie voix de radio.
T'as l'air d'être vraiment bien quoi, vraiment à l'aise.
Oui, donc je m'excuse, hein. J'ai effectivement une petite grève, mais ça ne nous empêchera pas d'enregistrer ce Super Daily ce matin, d'autant plus que...
Passons vents et marées, nous enregistrerons.
D'autant plus que le sujet est assez cool parce qu'on a très très envie de parler avec vous, médias, et notamment marques médias. Hein. Les médias, bah, eux qui conservent une part vraiment à part hein, dans notre recherche d'informations. Rappelez-vous, hein, selon le baromètre Harris Interactive 2019, on avait fait un épisode de podcast là-dessus il y a peu de temps, eh bien, les réseaux sociaux restent les plateformes privilégiées pour s'informer, 64% des utilisateurs, mais ils accordent ces 64% du crédit aux publications des médias traditionnels à hauteur de 57%.
Exactement, et on parle, de, comme tu dis, de ce qu'on pourrait appeler vulgairement les médias traditionnels, hein, c'est comme ça qu'on va les appeler, tous les médias qu'on connaissait avant même la naissance des réseaux sociaux et qui aujourd'hui doivent s'adapter, enfin hein, pas qu'aujourd'hui, depuis déjà quelques années, doivent s'adapter à ces nouvelles plateformes, les réseaux sociaux, puisque forcément ils doivent aller là où le public est.
Oui, parce que 2018, ça a été vraiment une année difficile hein, pour les médias traditionnels en ligne avec le changement d'algorithme chez Facebook, notamment la chute du reach organique, l'explosion des scandales autour des fake news. Il y a eu quand même pas mal de galères hein, qui ont mis des bâtons dans les roues à ces grosses marques médias-là.
Bien sûr, on peut dire que ces médias, ils ont, dans leur histoire, ils ont d'abord vraiment investi autour de Facebook et sur Facebook, hein, avec Facebook qui au début leur permettait des choses ultra avantageuses. Justement pour qu'ils viennent s'installer sur la plateforme avec des partenariats, des sponsors pour des vidéos. Vraiment, Facebook a fait le forcing pour attirer tous ces médias-là sur sa plateforme. Et très rapidement, bien sûr, Facebook, une fois qu'il les avait engagés dessus et que les autres ne pouvaient plus faire demi-tour, a arrêté d'arrêter toutes ces... C'est Salam Alec pour leur demander de payer normalement leurs publicitaires aussi.
Ouais, et c'est vrai que ces difficultés, elles s'appliquent à tout type de médias, qu'ils soient issus des médias traditionnels, presse, télé, donc les gros acteurs médias, mais aussi les pure players digitaux hein, qui avaient saisi cette opportunité de ces fameux médias vidéo hein, dont on a beaucoup entendu parler et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils doivent savoir s'adapter rapidement et continuer à prendre en compte l'évolution non seulement des plateformes, mais aussi des usages. En avril, le Social Media Club organisait une très belle table ronde réunissant vraiment le gratin hein, des acteurs médias autour d'une thématique ultra intéressante, celle des réseaux sociaux et savoir comment les marques médias, comment les médias prennent en compte l'évolution des réseaux sociaux et comment ils sont dépendants ou comment ils essayent de gagner leur indépendance face à ces plateformes. Une discussion extrêmement riche. On vous mettra le lien vers un grand article résumant cette discussion-là. Et on va beaucoup s'appuyer aujourd'hui dans ce podcast sur les résultats de cette table ronde. Je voudrais juste commencer par illustrer avec l'exemple de Loopsider, qui est un média vidéo 100% réseaux sociaux, un petit peu à la brute ou qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a plein en fait, hein, Playground, etc. Et Loopsider, c'est français. Et Johan Hufnagel, qui était donc invité à cette table ronde, qui est donc cofondateur, explique que, comme tu le disais tout à l'heure, qu'en 2017, c'était une époque bénie où Facebook proposait des partenariats, garantissait aux médias vidéo d'être mis en avant dans l'algorithme, et puis tout s'est arrêté du jour au lendemain, en janvier 2018, avec le fameux changement, le Facebook apocalypse, le changement d'algorithme de Facebook. Et du coup, les pratiques sont un petit peu restées comme à l'époque, comme en 2017. Et aujourd'hui, ils parlent pour son cas, Loopsider, ils essayent de trouver d'autres solutions en élargissant notamment leur présence à d'autres réseaux sociaux. Et on va voir comment tout ça s'organise, le contexte
alors,
est posé.
Ouais, c'était surtout l'âge d'or pour Loopsider parce que c'est un player 100% vidéo. Hein, donc forcément, les deux dernières années qui viennent de passer, on peut dire qu'ils se sont mis bien les copains. Là. Ils étaient à l'aise. Là, c'est sûr qu'on arrive dans une période depuis quelques temps, on a déjà parlé d'un peu de saturation de la vidéo. Et puis, il y a eu les changements d'algorithme sur Facebook qu'on fait un peu chuter le reach. Donc forcément, ce genre d'acteurs des réseaux sociaux, de médias, parce que lui, pour le coup, c'est pas tellement un média traditionnel, mais un média qui était
un pure player digital.
Et en tout cas, ils ont dû s'adapter justement à tous ces changements-là pour survivre au final.
Ouais. Alors côté média, hein, traditionnel ou pure player, on s'applique à relativiser hein, ces changements brutaux d'algorithme. En gros, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. À ce titre d'exemple, on dit bah voilà, les changements d'algorithme, ça fait partie de notre quotidien d'acteurs médias et il ne faut pas les craindre, mais savoir les observer.
Hein. Oui, savoir les observer et puis savoir s'adapter. Comme je disais juste avant, effectivement, il y a moins de, on va peut-être aujourd'hui dépenser moins d'argent et moins de temps sur Facebook pour avoir justement, on va en parler, une diffusion multicanale et aussi une place sur Instagram qui est de plus en plus importante.
Oui, et là clairement la grosse question, la grosse préoccupation de ces médias, eh bien, c'est le reach, la portée, combien de personnes je peux toucher avec mes publications, avec mon information et forcément la chute du reach organique pose un certain nombre de questions et les pousse aussi à se reposer peut-être les bonnes questions et notamment reviennent au centre des conversations, des préoccupations, le positionnement SEO quand on a un support site web, la monétisation par abonnement, où on voit aujourd'hui des belles réussites avec Mediapart qui sont arrivés à l'époque avec un format vraiment disruptif et qui aujourd'hui parviennent petit à petit à l'imposer et du coup créent une grosse fidélisation autour de leurs médias. Et puis surtout l'éditorialisation qui est retravaillée pour vraiment favoriser l'engagement. Et ce qu'on constate, c'est que l'engagement, bientôt, il devient plus scruté que le reach, hein, plus scruté que la portée.
Oui, effectivement. Et c'est plutôt nous aussi ce qu'on essaye de faire, c'est que la portée, faire de la portée. Aujourd'hui, on sait que sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, avec de la vidéo, entre guillemets, c'est facile. C'est-à-dire qu'avec un petit peu de publicitaire et un post vidéo, on va vite être largement au-dessus de ce qu'on fait habituellement avec de la photo ou avec du texte. Cependant, quand on utilise de la vidéo, il faut aussi regarder combien de temps les gens regardent la vidéo, le taux de rétention, combien il y a d'engagements qui sont faits dessus. Est-ce que ça intéresse vraiment, du coup, votre audience de voir passer des vidéos ? Parce que si c'est juste pour les voir passer sans les regarder ni sans même les commenter, à quel point aussi c'est intéressant pour vous et votre marque ou votre média de créer et d'investir dans ces formats-là. Et je pense que c'est ce qui est en réflexion aujourd'hui du côté de ces médias, c'est de se dire à quoi bon investir dans de la vidéo si on peut faire mieux en termes d'engagement et que ça intéresse plus notre audience avec de la photo, par exemple.
Et là-dessus, Facebook l'avait annoncé à compter de janvier 2018. Ils avaient dit la plateforme va remettre la notion d'interaction au cœur de l'algorithme, clairement, en favorisant les contenus qui crée du conversationnel, du vrai, donc de l'engagement. Et forcément, du coup, cette métrique, le taux d'engagement, c'est devenu un marqueur ultra surveillé par les médias qui commencent à l'appréhender et à le prendre en considération davantage que le nombre de vues. Alors, on trouve en tant qu'acteur pur social media que c'est plutôt une bonne chose. Mais par contre, ça a quand même quelques risques. La façon de mesurer l'impact du contenu, ça comporte des risques, notamment quand on est une marque média, parce que ça peut engager la déontologie des médias. Il n'y a pas de mystère pour personne que l'émotion et la colère, ça reste deux piliers de l'engagement. Pour ça, il n'y a pas à aller chercher bien loin. Vous allez regarder une vidéo de Combini, regardez les thématiques des vidéos de Combini et vous constaterez bien souvent qu'ils cherchent de l'engagement. Oui, c'est vrai qu'ils en obtiennent, mais parfois en usant de quelques astuces un petit peu faciles où on va utiliser toujours un peu les mêmes leviers qui sont ceux de l'émotion et puis ceux de la polarisation des points de vue. Et là, c'est vrai qu'en termes de déontologie, pour un acteur média, c'est compliqué de piloter exclusivement à l'engagement parce que est-ce que c'est vraiment la mission d'un acteur média ?
Oui, c'est vrai. On peut revenir aussi là-dessus sur le fait que ça, c'est aussi un avis que nous, on peut avoir, que les médias traditionnels sur les réseaux sociaux, s'ils ont envie de bien s'adapter et d'être des acteurs majeurs de ces réseaux sociaux, ils doivent garder une place d'expert de l'information. Et pour ça, il y a un véritable travail à faire et un rôle à jouer pour les journalistes eux-mêmes, puisqu'ils ont aussi des comptes personnels où ils représentent, qu'ils le veulent ou non, leurs médias et les médias de manière générale. Et puis, les chaînes de médias directement sur les réseaux sociaux. Eux, tout ce petit monde-là a un rôle à jouer, sur notamment avec la crise des fake news, avec la confiance qui chute des utilisateurs vis-à-vis de tous les acteurs qui amènent de l'information sur les réseaux sociaux. Eux ont une place à jouer pour être justement cet expert d'information et qui va aller vérifier ces infos, qui va pouvoir relayer des informations qui sont seulement vraies et qui va pas tomber justement dans dans ce qu'on pourrait appeler un peu la course au buzz ou le relais d'informations un peu fallacieuses juste pour avoir un peu plus de clics ou de trafic ou
ouais, ou même orienter ces thématiques pour vraiment chercher la polarisation. On le Exactement. Voit hein, sur un certain nombre de pure players social media. Alors, j'ai parlé de Combini, mais il y en a d'autres hein, qui vont avoir des thématiques récurrentes et on sait que ces thématiques, ils vont les chercher parce que ces thématiques-là, elles sont polarisantes dans les commentaires. Et ben concrètement, il va y avoir de la baston. Il va y avoir du commentaire quand tu parles de vegan, quand tu parles des femmes, quand tu parles de féminisme, quand tu parles forcément. Alors
attention, ça veut pas dire, là dans ce qu'on est en train de dire, ça pourrait être mal interprété, ça veut pas dire que les grands médias doivent jamais parler de vegan, de femmes, c'est la manière d'en parler. C'est-à-dire que effectivement, si vous mettez des vegans dans une boucherie, forcément il va y avoir un conflit inhérent à leur choix personnel. C'est plutôt dans ce sens-là, je pense.
Oui,
que
et, puis, et puis évidemment. Tout ce qui est de l'ordre du petit statut accompagnant qui vient gentiment solliciter l'engagement et parfois met le fil de commentaire dans une direction qui est forcément un peu polarisante.
Caris voilà. Viesbouba.
Ouais, voilà, typiquement. Ou genre sortez l'octogone et qu'on invite clairement dans les commentaires à un défouloir. Et c'est vrai que pour les médias, ça, c'est compliqué à gérer. C'est-à-dire, si je pilote à l'engagement, oui. La tentation, elle peut être grande après de faire dévier ma ligne éditoriale, ou en tout cas de l'adapter pour répondre à cette problématique.
Moi, je pense qu'en tout cas, c'est pas la solution pour eux, même s'ils doivent arriver à. Pour avoir de l'engagement, il faut aussi parler contenu. Et les médias ont les moyens d'arriver à être des leaders créatifs sur les contenus. Tout en s'adaptant au format, on va le voir, et aux plateformes, mais en gardant toujours ce côté d'un peu d'expert au-dessus de la mêlée.
Oui, et pour les médias, il y a le contenu, et puis il y a aussi les plateformes, évidemment, et réduire sa dépendance vis-à-vis de la plateforme principale Facebook en réfléchissant multicanal. C'est clairement un des enjeux qui a été identifié maintenant depuis au moins une année par les acteurs médias, investir plusieurs plateformes afin de rééquilibrer un peu le rapport de force et d'être plus indépendant.
Oui, bien sûr. Bah, 2018, ça a été l'année de l'investissement sur Instagram pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui avaient déjà des comptes avant, mais qui l'utilisaient un petit peu comme des vitrines, hein, comme le DM6 dans la table ronde dont tu parlais. Pour eux, maintenant, c'est devenu un média à part entière. Ils misent beaucoup, par exemple, sur le format story, et on va en revenir aussi là-dessus. Mais en multicanal, moi, j'ai aussi un petit exemple à vous donner avec l'équipe hein, sur Snapchat, par exemple, qui a investi le réseau Snapchat, alors qu'on peut penser que c'est un réseau qui est un peu compliqué à investir parce que très jeune, parce qu'une messagerie, c'est quand même un principe de messagerie privée. Mais vous avez une page découverte et dedans, bah, je trouve que l'équipe, moi, fait du bon boulot avec un format story. Hein, un format Snap, c'est un peu un format story avec des petits montages vidéo très, très courts, de l'info assez brute. Et je trouve que c'est parfait à consommer en Snap. Et en plus, pour la Gen Z, c'est un format qui s'adapte très bien, je pense, à leur temps d'attention sur les réseaux.
Oui, là-dessus, c'est assez marrant parce que dans cette table ronde, il y avait Aurélien Vierre qui est du Parisien et qui dit ben, oui, bien sûr, on continue d'investir Facebook. Ça, on se doute parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Enfin, il n'y a pas de choix, il faut être sur Facebook. Mais on a une forme de réalisme en 2019. On devient un peu plus distant, surtout plus mature, tout en sachant qu'on ne peut pas se passer d'eux. Et c'est vrai qu'on le voit, ça, maintenant. Les investissements en termes de production de contenu sont plus raisonnés. La quantité de contenu produite aussi est amoindrie.
J'allais enchaîner là-dessus. Le fait de devoir passer en multicanal aussi et d'être présent sur beaucoup de réseaux différents, sous beaucoup de formats différents, eh ben, on a arrêté des productions un peu papier glacé qui coûtent très très cher pour être un petit peu plus malin, pour être un peu plus agile et pouvoir produire plus de contenu avec peut-être du recyclage aussi et pouvoir basculer tous ces contenus-là un peu sur toutes les plateformes et sous tous les formats.
Et en parlant de multicanal, hein, y a Alix de Goldschmidt qui est du groupe M6, chargé des relations avec les GAFA. J'aime bien le titre, hein, chargé de relations GAFA. C'est ça,
j'aime bien aussi, j'ai lu, ça m'a fait rire.
Voilà, elle dit un truc qui résume bien, c'est être dépendant de tous pour n'être dépendant d'aucun. C'est presque,
c'est presque
un sous-titre, je trouve, d'un épisode de Game of Thrones. Tu vois, être dépendant de tous pour n'être dépendant d'aucun, c'est bien dit parce que c'est exactement ça le sujet. En travaillant en bien multicanal, sûr. Je réduis ma dépendance à une plateforme unique, à un changement d'algorithme.
Exactement. Si Facebook rechange à nouveau d'algorithme et que vous, ça ne vous convient absolument pas et que vous avez besoin d'un temps d'adaptation, bah, si vous avez Instagram, Snapchat, WhatsApp à côté. TikTok, j'en sais rien, et autres réseaux, vous serez pas embêtés de la même manière. Quoi.
Donc voilà, Facebook perd son monopole et Instagram commence à s'imposer. Hein, concrètement, du côté de Facebook, ils n'ont pas trop souffert du désengagement des médias hein, parce que la plateforme elle reste vraiment indispensable. Mais par contre, clairement, il y en a une nouvelle qui a gagné en attractivité de façon très forte depuis 2018 et qui aujourd'hui est au cœur des attentions. Eh bien, c'est Instagram. En 2018, par exemple, le groupe M6 a basculé l'intégralité de ses marques médias, de toutes ces marques qui créent du contenu informatif, informationnel ou entertainment en ligne, les a basculés sur Instagram. C'est quand même un gros chantier parce qu'on sait que le groupe M6, ils ont beaucoup, beaucoup de contenu et les ont basculés sur M6 et ils disent un truc intéressant, c'est que avant, c'était surtout quelque chose qui était de l'ordre de la vitrine d'être sur Instagram et ça venait accompagner comme une page un peu statique et maintenant, c'est devenu un vrai canal de distribution médias et on a, donc du coup ils ont corrélé leurs efforts à une évolution et bien des usages et puis aussi à la manière de produire du contenu. Ils ont modifié leur manière de publier leur contenu avec notamment des formats qui explosent comme celui des stories, t'en as parlé, et à ce titre d'exemple tu parlais tout à l'heure de l'équipe, moi je vais parler de 20 minutes qui publie eux aussi une story par jour sur Instagram. Franchement, c'est simple, efficace, bien fait. Ça respecte vraiment les codes natifs de la plateforme Instagram. Et puis surtout, ça reste de l'info. Donc, on voit que la transition, elle est en train de se faire chez les médias.
Oui, c'est ça. Adaptation et créativité. Adaptation au format et à la plateforme. Rester créatif pour être avant-gardiste quand même sur la création. Et puis, avec de l'info vérifiée. Alors, comme tu parlais, hein, 20 minutes, c'est une story par jour. C'est un début. Dans quelques temps, je pense que tous ces médias-là, ils publieront une quinzaine, vingtaine, trentaine de stories. Et au lieu d'avoir un fil de brève classique sur leur site, bah, quasiment toutes leurs brèves, elles seront en story sur leur plateforme.
Ouais, c'est ça. Et alors, on parle de multicanal, mais le multicanal, c'est pas que Instagram, ça peut être aussi les messageries qui, petit à petit, se retrouvent investies par les médias. Et pareil, 20 minutes, encore une fois, eh bien, a investi de l'énergie sur WhatsApp, où ils proposent, bah, pareil, une sorte de rendez-vous hebdomadaire, hein, de décryptage et de fact-checking. Ça se passe donc sur WhatsApp, le WhatsApp de 20 minutes. Et ils ont donc 20 000 abonnés, ce qui est quand même pas rien pour une plateforme.
C'est une belle communauté. Hein. Et puis, quand on sait que c'est pas facile en plus de s'inscrire sur les. Justement, de s'inscrire dans le juste hein, sur ces messageries privées, d'arriver à amener vraiment un contenu différenciant. Parce qu'il faut un contenu différenciant pour créer une communauté là-dessus. C'est hyper intéressant, je trouve, ce qu'ils ont réalisé.
Voilà, donc on le voit, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger et qui ont bougé depuis un an. Et il y a un certain nombre de mythes ou de légendes qui tombent, et notamment une stratégie, hein, la stratégie du 100% social media qui commence à être remise en question par les médias eux-mêmes.
Aussi, ouais.
Là-dessus, eh bien, on voit un certain nombre de gros acteurs du 100% social media eh bien, qui sont un peu en train de se dire... On a intérêt à jouer encore plus multicanal et de créer notre propre support parce que là aujourd'hui on est en grosse dépendance et on est fragilisé.
Ce qui est intéressant, c'est que tous ces médias traditionnels, ils avaient eux-mêmes des sites hein, avant qui fonctionnaient plutôt bien avant de se déplacer sur les réseaux sociaux. Et quand ils ont vu les players 100% réseaux sociaux comme Brut par exemple ou même Combini monter leur site internet en parallèle parce que justement ils jouaient cette carte du multicanal. Ça a fait aussi réfléchir ces médias traditionnels en se disant bah, peut-être qu'on devrait aussi réinvestir nous-mêmes nos propres sites pour les développer encore et on peut arriver à améliorer des choses dessus. Et je trouve ça vachement intéressant.
Ouais, et à ce titre, là, tu parles de Brut. Hein, et effectivement, on avait fait un épisode, l'épisode 146 du Super Daily, sur le retour de Brut sur un site web pour un acteur 100% social. On vous invite à aller l'écouter. Autre mythe qui est peut-être en train de tomber, c'est celui du tout vidéo. Est-ce que le mythe du tout vidéo touche à sa fin avec l'avènement du format story qui mêle la photo, le texte et aussi de la vidéo, mais de la vidéo beaucoup moins léchée? Eh ben, ça invite aussi les médias traditionnels à remettre en question peut-être cette ère du 100% vidéo.
Et ben, en fait, ce qui les fait réfléchir, c'est effectivement l'adaptation au format, comme on le répète depuis le début, et puis le fait de voir que en fait, il y a deux types de vidéos qui ont l'air de mieux fonctionner. Les vidéos très très courtes qui rentrent un peu dans les formats story et qui sont assez agiles et qui peuvent être découpées pour être placées sur un peu tous les réseaux, toutes les plateformes. Et puis, il y a les formats beaucoup plus longs où là, on peut avoir des vidéos avec des sujets plus d'investigation, plus profonds, qui fonctionnent aussi très bien sur YouTube ou sur les sites et en dehors des réseaux et qui peuvent être un relais sur les réseaux et recyclés sur les réseaux. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on remarque aussi dans l'attention des gens au niveau du podcast, par exemple, ou même au niveau du texte, où on va pouvoir aussi attirer des gens sur des formats beaucoup plus longs où ils ont une attention plus longue à donner.
Ouais, et là-dessus, alors j'ai quand même, il semblerait qu'ils soient tous un peu passés le mot et qu'ils soient assez d'accord là-dessus. Il y a une unanimité hein, sur le déplacement du format vidéo. Vanessa Rodriguez, qui est chef du service distribution de l'information chez 20 minutes, nous dit la vidéo, c'est un format bien adapté, mais il est loin d'être le seul. La narration par story interactive, donc j'aime bien le terme là aussi. Donc elle parle des stories. J'imagine sur format Snap ou sur format Insta, est extrêmement prisé et nous essayons de nous adapter, de voir comment nos lecteurs y réagissent. Ça, c'est la première chose. Même constat du côté du groupe M6 avec Emmanuel Patrick qui dit bah, bien sûr, on a toujours fait de la vidéo, mais on se rend compte qu'en fonction du contenu, c'est parfois la photo, parfois l'infographie ou même le texte qui fonctionne mieux. Et ça, c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, tout était drivé par l'algorithme. Nous, ça fait un moment qu'on a nous-mêmes des doutes hein, sur certains de nos comptes clients. On se dit, mais est-ce que réellement, j'ai des bons résultats systématiques quand j'utilise la vidéo? Ben là, le systématique n'existe pas. Faut
non,
être
plus
clair.
Forcément. Non,
et là-dessus, les marques médias s'en sont bien rendues compte. Et puis, du côté du Parisien, là aussi, on dit revenir un peu en arrière sur cette question du 100% vidéo. Aurélien Viers, qui est rédacteur en chef du pôle visuel du Parisien, dit « Il y a 4 ans, tout le monde misait sur le format vidéo carré, court, avec les petits sous-titres. » Eh bien, ça marche encore très bien. Mais on revient quand même de tout ça. Et c'est une époque qui est en train de prendre fin. Et c'est un côté dramatique aussi, hein, c'est pas le sujet de ce podcast, mais on sait aussi que ces marques médias ont licencié massivement il y a 3-4 ans en arrière des journalistes
pour embaucher
que des vidéastes. Et là, on croise les doigts pour que ça soit pas le cas, mais ça va venir forcément.
Ils vont faire la même chose dans l'autre sens en embauchant des journalistes et environ des vidéastes.
Et embaucher des community managers ou des social media managers.
Oui, bien sûr, parce que comme ils le disent eux-mêmes, c'est devenu aussi important qu'un rédac chef.
Exactement. Voilà ce qu'on pouvait se dire. Un gros sujet. On avait beaucoup de choses à dire là-dessus ce matin.
Ouais. Et bah, si vous avez des réactions, hein, bien sûr, des choses à nous dire sur tous les exemples qu'on vous a donnés, vous pouvez venir nous laisser un petit commentaire à Supernatif sur nos réseaux, hein, comme on en parlait, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Et puis, une note ou un commentaire sur les plateformes de podcast, ça nous fait plaisir.
Ouais, partagez ce podcast avec vos potes, hein, on ne sait jamais, ça pourrait peut-être les intéresser.
C'est ça. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.